Bonjour à tous. Ah, ça fait plaisir. Je vous invite à prendre vos Bibles et prendre l'Évangile de Jean. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'allais en dessous. L'Évangile de Jean, chapitre 6. Alors, ce matin, je vous propose de découvrir, de redécouvrir quelque chose qu'on connaît très bien et que j'ai lu cette semaine en lisant l'Évangile de Jean, et ça m'a profondément touché. Alors, je lisais le miracle de la multiplication des pains, c'est un truc que je connais par cœur, mais en continuant derrière, en comprenant ce qui était avant, eh bien, j'ai eu un regard très différent sur ce miracle. Et c'est ce que je veux vous partager ce matin, et vous allez voir que c'est un peu différent de d'habitude. Au lieu de faire une prédication en plusieurs points, tout ça, on va lire ensemble tout le chapitre 6 et on va essayer de le comprendre au fur et à mesure, comme j'ai pu le comprendre. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est beau. C'est ce qu'on a entendu tout le long du culte ce matin. J'avais presque envie de dire « ça y est ». Entre la scène, les louanges, l'adoration qu'on a entendu, Jésus-Christ, le seul chemin, Jésus-Christ, la vie, qui donne en abondance. Je ne suis pas là encore, mais ce n'est pas grave. Cette semaine, alors que je réfléchissais à Jean 6, ma femme m'a envoyé un texto. Elle m'a dit, après avoir écouté un message, elle était touchée, elle m'écrit ça, par texto. Jésus se présente aux individus selon leurs besoins, en fonction de leurs besoins. À la foule affamée, il se présente comme le pain de vie. À l'Église qui affronte la tribulation en Apocalypse, il se présente comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il dit « Je contrôle les temps, les épreuves, etc. » Il encourage. Il dit à chacun « Je sais ce que tu vis. » Aujourd'hui, il sait tout de nous. Il nous connaît, nous voit directement. À nous de rester fidèles à Jésus, qui donne tout. À nous de rester fermes sans compromis. On ne peut pas se nourrir de plusieurs pains. Jésus nous invite à chercher les réponses à nos besoins chez lui uniquement. Bon, j'avoue, je l'avais dit avant, le sujet de la prédication, quel pain mangeons-nous? De quel pain mangeons-nous? Et ça m'a beaucoup encouragé quand même, c'était, oui, enfin, je vous lise en introduction. Si vous regardez sur Yahoo, en 2010, sur le moteur de recherche, vous allez voir les 10 aspects, qui sont les 10 domaines qui sont les plus recherchés sur Yahoo, qui est le deuxième moteur de recherche en France. Alors sur les 10 aspects, 10 domaines, il y en a 5 qui correspondent à la télé-réalité People, et les 5 autres exclusivement du foot. Number 1, essayez de deviner, Secret Story. C'est ce qui est le plus recherché par les Français. Hein, je ne dis pas dans le monde, par les Français. C'est impressionnant, non? Alors, dans l'Évangile de Jean, on voit Jésus qui dit à 7 reprises, de manière différente, « Je suis ». Et aujourd'hui, on va voir « Je suis le pain de vie ». Mais il dit aussi « Je suis la lumière du monde ».« Je suis la porte pour les brebis ».« Je suis le bon berger ». »« Je suis la résurrection et la vie ». »« Je suis le chemin, la vérité et la vie ». »« Je suis le vrai cep ». Qui suivons-nous? Qui est pour nous ce « je suis » C'est Jésus. Nous, de quel pain mangeons-nous? Alors, avant de lire Jean 6, j'aimerais rappeler ce que Jean veut nous faire comprendre, parce que c'est très important. Si on ne comprend pas pourquoi Jean a écrit son évangile, on ne comprend pas ce chapitre 6. Jean a écrit cet évangile. Et il l'a clairement affirmé au chapitre 20, 30, 31. Jésus, donc je cite Jean, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On connaît bien ce verset. Ces choses ont été écrites. Jean a écrit son évangile afin qu'on croie que Christ est fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Premier objectif, défendre notre foi. Dans l'évangile de Jean, on voit plus d'une centaine de fois le mot croire, croire. Il faut que vous croyiez, croyez, croyez. Jean voulait fortifier la foi qui sauve, et assurer aux croyants qu'il a la vie éternelle. Et on va le voir à nouveau aujourd'hui, Jésus le dit. Deuxième objectif, c'était apporter la bonne nouvelle. Et à travers l'évangile, Jean nous prouve que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est Dieu fait homme, et nous prouve que Jésus est aussi le Christ, le Sauveur qui était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et quelque chose qui est ressorti par les théologiens, c'est qu'il y a 7 miracles, 7 signes qui sont présentés dans l'évangile de Jean. Bon, le mot 7 montre un peu aussi la plénitude, la complétude. Et voilà, ils sont affichés. D'abord, l'eau transformée en vin. Ensuite, la guérison du fils de l'officier du roi. La guérison du paralytique. Au chapitre 6 qu'on va lire aujourd'hui, la multiplication des pains et la marche sur l'eau. Les 4e et 5e. Ensuite, à la guérison de l'aveugle, la résurrection de Lazare. Et donc là, on va se déporter au 4e et 5e miracle. Mais ça, on ne peut pas le comprendre quand on lit le texte tout seul. Si on lit que le miracle de la multiplication des pains et qu'on ne le lit pas à la lumière des deux objectifs fondamentaux de Jean, eh bien, on ne comprend pas pourquoi tout cela et pourquoi ces miracles-là. Les deux objectifs fondamentaux, premièrement, défendre notre foi, deuxièmement, montrer que Jésus est fils de Dieu. Et les 7 miracles montrent que Jésus est fils de Dieu et amènent les hommes à la foi. Alors, juste avant de lire, je vais juste recadrer vite fait le contexte. C'est important pour voir un peu dans quel état de fatigue Jésus était. Jésus, avant cette multiplication des pains au chapitre 6, il vient d'apprendre que son cousin Jean-Baptiste vient d'être décapité. Bon, ce n'est pas les meilleures circonstances. Il est fatigué. Les disciples ont été envoyés, ils reviennent de mission, ils ont couru partout, ils ont guéri des malades, ils ont proclamé le royaume de Dieu au nom de Jésus. Ils reviennent après une longue mission, aussi très fatigués. Et là, Jésus, il veut se retirer, mais la foule continue à le suivre. Et Jésus, ému de compassion pour la foule, va malgré tout les prendre à lui et à nouveau avoir la patience de leur expliquer le royaume de Dieu et prendre soin de leurs besoins. Ce qui est aussi important à savoir dans le chapitre juste avant dans l'évangile de Jean, c'est que depuis le début, on voit que Jésus fait beaucoup de miracles qui montrent clairement sa divinité. On voit aussi que Jésus s'affirme déjà comme l'égal de Dieu, comme l'égal du Père, et qui montre déjà qu'il a cette dépendance avec le Père. Il reprend déjà ouvertement les Juifs en leur montrant qu'ils ne cherchent pas la vie éternelle, mais qu'ils cherchent leur religion avant tout, alors qu'ils ont la source de vie devant eux, Jésus-Christ. Il vient d'avoir aussi un débat par rapport à la personne de Moïse. Moïse supérieur à Jésus, on va le revoir à nouveau. Et malgré tout ce contexte un peu bizarre, la foule continue à suivre Jésus. Et on se demande pourquoi. Et donc maintenant, je vous invite à lire avec moi. Alors, ne lisez pas dans vos Bibles, parce qu'il va y avoir quelques commentaires. Et on va lire ensemble tout le chapitre 6, si le temps le permet. Chapitre 6, verset 1. Alors, on commence avec le 4e miracle de Jésus. Je l'ai dit, la nourriture pour 5000 hommes. Alors déjà, 5000 hommes, oui, mais il y avait les femmes et les enfants. Donc on considère qu'ils étaient 20 000. Jésus, ce miracle, Jésus créateur, c'est Jésus qui crée. Il peut renouveler, créer tout ce pain. Alors verset 1, on lit. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, où meurt de Tibériade. Et à peine il s'est dirigé, que Jean nous expose tout de suite les intentions de la foule. C'est important. Vivre et voir des miracles. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ce n'est pas écrit parce qu'elle voyait en Jésus le Fils de Dieu, parce qu'elle voyait les miracles. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Avant d'aborder le verset 5, maintenant on aborde les intentions de Jésus. On voit que la foule vient pour voir des miracles. Et maintenant, on voit les intentions de Jésus. Et on a un complément dans l'évangile de Matthieu qui dit clairement que Jésus a été ému de compassion pour la foule. Ce n'est pas chapitre 9, c'est le chapitre 14. Et il va vouloir répondre à leurs besoins autant physiques que spirituels. Et malgré sa fatigue, on voit dès le début la grande compassion et tout l'amour, la patience de Jésus, qui a déjà fait beaucoup de miracles dans le passé, mais il voit cette foule qui vient à nouveau pour des miracles, qui vient à nouveau pour manger, et Jésus est à nouveau disponible pour eux. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus pose cette question à Philippe? Elle est un peu ironique comme question. C'est déjà une heure avancée. Il y a 20 000 personnes. Même ici, avec les supermarchés qu'on a, je ne pense pas qu'on arriverait à trouver à manger pour 20 000 personnes comme ça instantanément. Mais non, il met à l'épreuve Philippe, il met à l'épreuve les autres disciples. Puis il ironise parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que le miracle. Il veut voir si ceux qui sont proches de lui, ceux qui l'ont déjà vu faire tous ces miracles depuis le début de l'évangile de Jean, est-ce qu'ils vont croire que Jésus est capable? Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus éprouve les disciples, parce que les disciples n'ont toujours pas compris que Jésus est fils de Dieu. Ni la foule, ni les chefs religieux. L'incrédulité des disciples face à Jésus. Philippe répond d'abord au verset 7. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Donc il dit déjà on n'a pas assez d'argent pour les 20 000 personnes. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voilà, ils sont quelque part défaitistes. C'est pas la peine, on n'a pas les moyens, on va pas les nourrir. Et dans un autre évangile, on voit même Édipe qui dit, renvoie-les chez eux, quoi. Alors Jésus, dans sa patience, il reprend pas les disciples, ce qu'il fait par moments, mais il leur laisse une fois de plus le temps de comprendre qui il est. Et il va faire ce miracle, la multiplication des pains. Alors verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes, donc on a dit 20 000 personnes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Alors Jésus, il a enseigné le royaume de Dieu, il a guéri les malades et il répond aussi aux besoins de base par la nourriture. Il ne fait pas que répondre, il va même au-delà, il les rassasie. Il les donne plein à craquer. Et après, il reste même 12 paniers. Verset 12, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Si un homme vient devant vous et dit et se proclame l'égal de Dieu et multiplie les pains et les poissons pour 20 000 hommes, croirez-vous qu'il est fils de Dieu? Alors la réaction de la foule, elle est simple. Ils viennent de voir le plus grand miracle qu'ils ont jamais vu. Ils reçoivent la réponse de Jésus à leurs besoins, besoins physiques, besoins spirituels. Mais en fait, ils prennent que le physique, ils ne prennent pas le spirituel. Qu'est-ce qu'on lit au verset 14? Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors, si on ne comprend pas bien le contexte, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à comprendre, ce prophète... C'est un prophète qui est mentionné en Deutéronome 17 ou 18, je ne sais plus. Et ce prophète, c'est Moïse qui dit qu'il va y avoir un prophète qui va venir et qui va répondre aux besoins du peuple. Et à travers Moïse ou à travers ce prophète que Moïse annonce, les Juifs, ben, ils attendent quelqu'un qui va venir, qui va les délivrer des Romains, leur donner une autorité politique, leur donner tout ce qu'il faut matériellement, physiquement. Mais malgré tout cela, malgré ce grand miracle, ils ne voient toujours pas Jésus comme envoyé de Dieu, comme fils de Dieu. Mais ils sont toujours derrière Jésus pour recevoir, prendre matériellement. Et par la suite, ils vont même comparer Jésus à Moïse en disant que Moïse est plus grand que lui. Donc on voit ce premier miracle. Déjà, moi depuis que je suis tout petit, j'ai toujours entendu cette histoire. J'ai lu, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, et bien c'est la première fois que je comprends, cette semaine, que la foule n'était pas là pour Jésus, elle était là pour manger, pour voir les miracles, et elle était complètement incrédule. Et de voir Jésus dans sa patience qui vient à nouveau faire le miracle. On voit la foule qui est incrédule avant et la foule qui l'est toujours autant après. À la place de Jésus, je serais découragé. Alors, ils veulent un leader. Ils veulent quelqu'un qui réponde à leurs besoins. Et juste avant le cinquième miracle, on va lire que le peuple cherche clairement ce leader politique et il n'a rien compris à Jésus. Donc, il veut prendre Jésus et le faire roi. Il dit, toi, tu nous nourris, les Romains, eux, ils nous prennent l'argent, on va te faire roi et tu vas nourrir tout le peuple. Jésus, voyant cela, se retire. Il renvoie les disciples, il se retire. Parce que lui, il est venu pour sauver, évidemment, notre péché, notre misère spirituelle, pour apporter la paix dans les cœurs, avant l'aspect matériel. Alors, il renvoie les disciples. Je me suis posé la question. Mais quand on regarde un peu le contexte, qu'on voit comment les disciples ont fait des miracles, ont guéri des malades au nom de Jésus, on se dit qu'il n'y a pas que Jésus qui était quelque part tenté de devenir roi. Les disciples aussi étaient tentés d'être les grands du roi. Jésus renvoie les disciples et lui, il se retire. Et là, on va aborder le cinquième miracle, cinquième signe de l'évangile de Jean, qui montre que Jésus-Christ est fils de Dieu, à nouveau. On est rendu au cinquième sur sept. Alors, verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Là, on montre qu'une fois de plus, les disciples, les apôtres n'ont toujours pas compris qui était Jésus. Quand ils voient Jésus marcher sur l'eau, ben, ils ont peur. Parce qu'ils ne voient pas en Jésus ce Fils de Dieu. Ils sont toujours incrédules. Leur manque de foi les amène à douter ce qu'ils voient. Puis on a même l'exemple de Pierre qui va à l'encontre de Jésus, qui s'enfonce dans l'eau, et Jésus qui lui dit, mais homme de peu de foi. Verset 21, ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, c'est intéressant de voir que il y a deux miracles qui se produisent. Là, on en voit un chez Jean, on en voit un chez Matthieu. Chez Matthieu, on voit que la tempête s'apaise. Jésus monte dans la barque, plus rien. Donc Jésus, non seulement il est créateur, mais il est aussi souverain sur les lois naturelles. Il est souverain sur les lois naturelles parce qu'il marche aussi sur l'eau. Il est souverain sur les lois naturelles parce qu'au moment où il marche sur la barque, comme par hasard, elle arrive où il faut. C'est impressionnant. Et c'est alors, et ça on ne le voit pas dans Jean, mais on le voit en Matthieu, que ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement fils de Dieu. » Au bout du cinquième miracle prouvant que Jésus est fils de Dieu. Tu es véritablement fils de Dieu. Enfin, une reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu. Donc maintenant qu'ils ont reconnu Jésus, enfin une partie, ceux qui étaient dans la barque, comme fils de Dieu, Jésus va commencer son discours sur le pain de vie. Alors tout à l'heure, on disait de quel pain mange-t-on ? Là, vous commencez à comprendre. Il y a ce miracle, cette foule affamée qui a mangé le pain, qui a été rassasiée, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rien mettre dans son ventre, mais qui n'a pas voulu de cette annonce du royaume de Dieu. Et il y a ce pain de vie qui se présente, ce pain de vie, Jésus-Christ. Alors, on peut lire dans le verset 22 que la foule recherche activement Jésus, mais alors pour quel motif ? Verset 22, « La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» C'est fou de voir cette foule qui cherche mais activement Jésus, qui est prêt à tout traverser, à tout... Alors, est-ce qu'ils ont soif de Jésus, de ce pain de vie qu'on va voir ? Ou est-ce qu'ils ont soif de voir des miracles, d'être nourris de pain ou de vin, comme le premier miracle, multiplication du pain, du vin ? Ils cherchent à nouveau les biens matériels. Et je me dis, Jésus quand même, il doit quand même en avoir marre. Fait combien de miracles, combien de fois qu'il leur explique. Il revient à nouveau, il traverse les lacs les, avec les barques et tout, pour à nouveau lui demander, allez, donne-nous des miracles, allez Jésus, donne-nous, on veut du matériel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ce n'est pas les miracles qui conduisent à croire que Jésus est fils de Dieu qui les poussent à venir le voir, mais c'est parce qu'ils ont bien mangé, ils ont été rassasiés, et pourquoi pas une autre grillade. Alors à ceux qui n'avaient pas encore compris, Jésus dans sa patience se présente clairement lui-même fils de Dieu et se présente comme celui qui a le pouvoir de donner la vie. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, verset 27, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Alors cette phrase, elle m'a beaucoup interrogé. Je me dis, mais quel état d'esprit ils avaient pour dire à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus, ça fait 15 fois qu'il leur montre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Jésus ? On n'a toujours pas compris. Ou plutôt, ce que tu nous as dit, ce n'est pas ce qui nous arrange. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qu'on peut faire pour y arriver ? Oui, la foule s'interroge sur ce que Dieu attend d'eux. Mais là, devant les yeux, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, ils pensaient à tort que Jésus leur demanderait d'accomplir des œuvres. Dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire comme œuvre pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ? Ils sont tellement orgueilleux, comme nous on peut l'être, qui croyait même être capable de le faire. Dis-nous ce qu'on doit faire et on le fera. Quel orgueil ! Dis-nous ce qu'il faut faire pour être sauvé, on le fera. Le problème n'est pas que Dieu ne s'est pas révélé, mais c'est que les hommes n'acceptent pas sa révélation. Ils attendent autre chose qui satisfasse leurs besoins, leurs intérêts. Alors Jésus répond, verset 29, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il leur dit clairement. Alors dans son extrême patience, il leur explique à nouveau d'où viendra le salut. Mais la foule qui recherche activement toujours les miracles qui amènent au matérialisme, au confort terrestre, ils ont déjà vu tous ces miracles qui montrent la divinité de Christ. Mais leur égoïsme les pousse même à provoquer Jésus. Jésus, il n'est pas dupe à travers ces questions. Il voit la provocation. Et là, le verset 30, il commence à provoquer plus dur, on va dire, Jésus-Christ. « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous les voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » C'est quand même fou. C'est le cinquième miracle qu'il fait, qu'il montre qu'il est fils de Dieu. Il dit, mais quel miracle fais-tu pour nous prouver que tu es celui qui a envoyé ? L'argument de la foule, si on veut bien comprendre cette histoire de manne dans le désert, c'est de dire que ben, la manne qui venait de Dieu à travers Moïse, bon, eux ils disent déjà c'est Moïse qui nous a envoyé la manne qui vient que, Dieu, que Moïse nous a donnée, eh ben, la manne, elle a nourri tout le peuple. Alors, ta multiplication des pains, c'était sympa, on était 20 000, mais à l'époque, on était des centaines de milliers. Alors, Jésus leur répond que la manne était nourriture d'un jour, une ombre de ce que devait être le vrai pain de vie, Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas qu'il est patient, Jésus, avec nous ? Jésus leur dit, verset 32, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils n'ont toujours pas compris. Ou plutôt, on peut dire qu'on n'a souvent pas toujours compris. On met beaucoup de temps à comprendre. Parce qu'on cherche ce qui nous arrange. On ne comprend pas tant que ce n'est pas ce qu'on attend. La foule est tellement aveuglée et incapable de voir Jésus, le vrai pain de vie, que Jésus est obligé de leur dire clairement, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez bu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qui m'ont donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Donc Jésus leur dit, je suis cette vie, je suis ce pain de vie. L'œuvre que vous devez avoir, c'est simplement de croire en moi. Je vous ai fait les miracles, je suis avec vous, je vous enseigne, vous n'en voulez pas. Et là, il leur dit clairement que ceux qui viennent à lui, il va les garder, mais qu'eux, ils n'en font pas partie, hein, parce qu'ils n'ont pas eu foi en lui. Et ce verset 40, qu'on connaît bien, et on dirait pratiquement le même verset que Jean, qu'on donnait au début tout à l'heure. Verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est simple, hein ? Le plan de Dieu pour l'humanité, il est simple. Par contre, les hommes, nous, on aime bien compliqué. On aime bien compliqué parce que ce message simple, ben, c'est pas celui forcément qu'on voudrait. Alors, je vais sauter les versets 41 à 70. Sinon, on ne va pas finir ce matin. Les versets 41 à 59, on voit la réaction des Juifs. Donc, les Juifs qui murmurent, qui disent qui il est pour dire qu'il est le pain qui vient du ciel, qui il est pour se proclamer l'égal de Dieu. Et donc là, ça commence à murmurer. Et voilà, l'envie de tuer Jésus qui avait déjà avant, bah, elle commence à un peu plus monter chez les Juifs. Et juste pour résumer, on pourrait lire le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors c'est très intéressant de voir que ce qu'on a appris tout à l'heure, le pain et le vin, eh bien, c'est les deux éléments que Jésus a multipliés lors du miracle de Cana et lors de la multiplication des pains. les deux éléments qu'il a reproduit, créé, c'est les deux éléments de la scène. Enfin, c'est très intéressant, non? Ce qui est intéressant surtout, c'est de comprendre que tout ça, c'est métaphorique, et que ce que Jésus dit, c'est ce qu'Hermel disait tout à l'heure, c'est que lui, son pain, le pain, c'est son corps, le vin, c'est son sang, et que pour avoir la vie éternelle, il faut croire, il faut manger, c'est-à-dire qu'il faut croire en ce sacrifice de Jésus à la croix. De même que manger et boire sont indispensables à la vie physique, de même la foi en la mort sacrificielle sur la croix, elle est indispensable pour avoir la vie éternelle. J'insiste, elle est indispensable pour avoir la vie éternelle. Donc à la fin, bon, les Juifs, la plupart ne croient pas en Jésus et le comparent à Moïse. Ensuite, la réaction des disciples, juste pour résumer, Jésus, quand il annonce qu'il est le pain de vie, ben, les disciples disent « Oula, là tu vas un peu loin, quoi. Nous on n'avait pas compris tout ça, là. Ça nous dépasse un petit peu, là. Les miracles c'était sympa, mais là ça va un peu trop loin. » Et là il y a division chez les disciples. Il y a une bonne partie qui quitte Jésus, et une autre partie qui reste. Et on a un contraste. Ceux qui restent, Jésus leur demande, et c'est là que Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et en contraste avec les autres disciples, les faux disciples, les vrais disciples. Pourtant, ils ont été avec Jésus, et ils ont vu les 5 miracles montrant que Jésus est Fils de Dieu. C'est aussi intéressant de voir que les disciples n'ont pas tout compris, puisque Pierre, un peu dans le même état d'esprit que les Juifs, a l'orgueil de dire quelque part, moi je sais, tu es le Fils de Dieu, moi j'ai cru. Et Jésus derrière lui dit, je te rappelle que oui, je t'ai choisi. Et oui, je t'ai appelé. Et tu as cru. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a ce double aspect qui est important dans la vie du chrétien, de savoir que on a chacun un choix à faire, de croire en ce pain de vie, mais on a besoin de Dieu pour nous montrer et nous révéler la personne de Jésus. Alors, quelques applications. Essayez de ne pas trop m'y attarder. D'abord, quel Messie on veut? Quel Messie voulons-nous pour notre vie? Est-ce qu'on veut ce Moïse ou ce Jésus véritable? Quel est notre regard sur Jésus? Alors, il y a un commentateur qui a dit que la réaction des Juifs, elle est la même que la plupart de nos contemporains, enfin qu'un bon nombre. Ils désirent un Christ qui n'attend de rien d'eux, mais qui répondent à toutes leurs exigences. Est-ce que c'est comme ça que l'on voit Jésus? Chacun, seul devant Dieu. Dieu connaît parfaitement vos cœurs. On a dit, il connaît parfaitement vos besoins. Seul devant Dieu. Qu'est-ce qu'on attend de Jésus? Qui est-ce que je suis et pourquoi? Tout à l'heure, on voyait que le moteur de recherche, Yahoo, les people, les télé-réalités, le foot. Quel bénéfice j'attends de Jésus-Christ? Est-ce que je suis encore à demander tous les jours, Père, donne-moi mon pain quotidien. Père, permets-moi ce plus grand appart, permets-moi ça pour que ça aille mieux physiquement dans ma vie. Est-ce qu'on en est toujours à ce début, ce pain quotidien? Ou est-ce qu'on a commencé à manger de ce pain de vie qui lui renouvelle réellement au quotidien? Parce qu'on a été créé pour l'éternité. La vie sur terre, elle est passagère. Est-ce qu'on veut amasser des biens sur la terre ou est-ce que l'on cherche à amasser des biens pour le ciel? Pourquoi travaille-t-on? La nourriture qui périt ou celle qui donne la vie éternelle? Parce qu'une chose est sûre, c'est que Jésus y voit clair dans nos intentions. Bon, il a de la compassion, il a de l'amour, il a de la patience, comme il a eu pour la foule. Mais il voyait très clair dans leurs questions et très clair dans leurs intentions. Et on se rappelle en Matthieu 7, ce que dit Jésus, « Ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Attention, de quel pain mange-t-on? Combien de nous sommes comme Philippe et comme ses disciples? On a vu tellement de fois Dieu à l'œuvre dans nos vies, faire des miracles, ouvrir grand des portes, diriger, tracer une route. Et pourtant, dès qu'arrive une petite épreuve, on est à nouveau incrédule, craintif, on n'arrive pas à s'appuyer sur lui. On n'arrive pas à lui remettre tous les aspects de notre vie. On voit aussi que nous, les hommes, on recherche les miracles qui frappent aux yeux. On cherche ce qui frappe les yeux plutôt que le message du cœur de Jésus, qui est simple. C'est écrit, Dieu regarde au cœur, et il recherche des hommes qui cherchent à faire sa volonté. Est-ce que l'on cherche à faire sa volonté? Est-ce que je suis dans l'émotionnel, c'est-à-dire que je réagis aux actions de Dieu dans la vie des autres, c'est-à-dire que je réagis ponctuellement, ou est-ce que je suis dans ce désir de faire la volonté de Dieu, dans l'obéissance? Jésus également n'est pas le Père Noël. Ça tombe bien, c'est les fêtes. Contrairement au Père Noël, vous savez, le Père Noël, il donne des cadeaux à ceux qui ont été gentils. Alors Jésus, lui, il nourrit sans distinction. Il a nourri toute la foule, spirituellement, physiquement, sur la seule base qu'on veuille le croire et le suivre, et nous accepte. C'est tout ce qu'il demande. Il peut nous rassasier, mais bien plus que matériellement. Soyons certains que c'est son désir, et c'est une promesse pour nous, parce qu'il veut nous donner la paix et la vie. Une autre application, est-ce que j'accepte la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que j'accepte la révélation sur sa volonté de ma vie? Comme j'ai dit, est-ce que j'accepte son plan pour moi? Ou est-ce que j'attends? Je dis, ben, je prie, j'attends la volonté de Dieu. Ben, Dieu te l'a montré, sauf que tu ne veux pas. Moi, je l'ai vécu. Je suis resté 1 an et demi encloisonné dans ma prison locale parce que j'étais persuadé de quelque chose et j'attendais que Dieu me dise... bouton, oui. Sauf que ça a duré 1 an et demi. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, pardon. J'ai compris que c'est non, sinon tu aurais dit oui avant. Et là, après, il a ouvert les portes. Souvent, on attend qu'il dise oui à ce qu'on a dans la tête, alors que ce n'est pas sa volonté. Jésus est la vie. Seule la foi en lui peut sauver. Pourquoi est-ce qu'on rajoute ses œuvres? Pourquoi on se rajoute des fardeaux? Pourquoi on complique les plans de Dieu? Comme la foule qui dit, dis-nous ce qu'on doit faire, on va faire pour être sauvé. Quelles œuvres on peut faire? Je suis là devant vous. Pourquoi est-ce que vous cherchez une autre voie? 9e application, est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Eh bien, c'est simple, ça dépend du pain dont nous mangeons. Si vous mangez du pain de vie, eh bien, les paroles de Jésus, et Jean nous les rappelle, que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Si nous mangeons d'un autre pain, remettons-nous en question. Manger et boire sont indispensables à la vie physique. Mais la foi en la mort sacrificielle sur la croix, comme j'ai dit tout à l'heure, est indispensable pour recevoir la vie éternelle. Une 10e application, c'est la fin. Jésus est d'une grande compassion et d'une extrême patience avec nous. Il se révèle progressivement, chacun à notre niveau, chacun où on en est, parce qu'il connaît parfaitement nos besoins. Alors on a cette promesse forte de croire que Jésus nous connaît et qu'il sait nous prendre où on est. Alors accrochons-nous à lui, regardons pas en arrière et croyons qu'il peut nous faire aller vers l'avant. Jésus est le pain de vie. Il est le « je suis ». Il n'y a pas d'autre chemin pour avoir la vie, l'avoir en abondance. Puisqu'il est la source de vie, il peut tout la donner, il peut tout la donner, et la donner avec une plénitude. Il peut répondre à tous nos besoins. Alors, conclusion simple. Ce chapitre qui montre Jésus comme pain de vie, la première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai envie de dire qu'il démolit l'évangile de la prospérité. Celui qui dit que « suis Jésus et tu seras béni matériellement ». Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver notre misère spirituelle. Répondre à nos besoins physiques, certes, par compassion, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime ses enfants. mais d'abord pour répondre aux besoins spirituels. Il veut nous donner la vie, il veut nous la donner en abondance, la vraie vie, celle qui vivifie, celle qui apporte la paix. Il est le pain de vie, il n'y a pas d'autre. Comment est-ce que nous approchons de Jésus? De quel pain mange-t-on? Amen.